premier sur l'info, l'info locale.
Il est 7h30, tout de suite les titres de votre journal local présenté par Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Le premier village du Tourey a ouvert ses portes. Prison fermée, mandat de dépôt pour la fratrie des braqueurs. Et puis dossier Covid-19, vous comprendrez pourquoi les tests rapides sont loin de convaincre les autorités sanitaires.
Le premier village du Tourey a ouvert ses portes.
32 artisans et ateliers d'initiation du 8 au 11 juillet puis du 15 au 18 juillet redonnent leur lettre de noblesse à l'artisanat d'art polynésien dans les jardins de la Maison de la Culture. Cet événement a pour objectif de faire vivre les festivités du Heiva en donnant une visibilité aux acteurs de l'artisanat traditionnel. Le confinement en effet était difficile économiquement pour les artisans. C'est ainsi un retour aux sources où se mêlent artisanat et danse traditionnelle, comme le précise le ministre de la Culture, Eremoana Mama Touyaoutapou.
L'idée de ce village, c'est de proposer un espace commun comme cela se faisait avant, pendant l'époque du Tourey, où toutes les activités étaient regroupées, soit à Paris, soit à Vaillété, de reprendre un peu ce concept avec de la danse le soir ici au Grand Théâtre et bien sûr des expositions artisanales pendant la journée. Parce qu'on sait que nos écoles de danse ont des difficultés aujourd'hui, nos artisans ont des difficultés, donc nous voulons les aider. Je lance un appel, venez au village du Tourey, et puis il y a vraiment de très belles choses.
Pour cette première édition, 32 artisans se relayeront dans le village pour mettre en lumière toute la richesse de leur savoir-faire. Les visiteurs auront également l'opportunité de découvrir les créations originales autour de plusieurs univers de l'artisanat traditionnel.
Air France est de retour en passant par Vancouver.
Si le programme des vols du mois de juillet reste inchangé, Air France a annoncé hier après-midi une mise à jour du programme et cela à partir du 2 août. Comme évoqué au mois de juin dernier, la compagnie a décidé de passer par le Canada à Vancouver à partir du 2 août. Donc, et jusqu'au 1er septembre, 3 fréquences par semaine sont prévues entre Papeete et Paris. Les mercredis, jeudi et dimanche au départ de Papeete et mardi, jeudi et samedi au départ de Paris. Air France indique que la mise à jour du système de réservation sera faite dès aujourd'hui, tout en précisant que les programmes sont susceptibles de changement en fonction de la réouverture des frontières américaines. Pour le reste, les passagers ont l'obligation de porter un masque chirurgical à bord et d'en prévoir le nombre suffisant pour l'ensemble du voyage. À noter que le passage par Vancouver nécessite également une autorisation de voyage électronique à télécharger sur le site du gouvernement canadien.
Une famille de braqueurs jugée au tribunal.
6 hommes, dont 4 membres d'une même famille, comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel pour des faits qui remontent à plus de 5 ans. Principaux protagonistes de l'affaire, 3 frères de la famille Chen ainsi que leur père, une fratrie bien connue de la justice car plusieurs de ses membres ont déjà passé plusieurs années derrière les barreaux pour trafic d'ice. Fin 2014 et début 2015, les prévenus s'étaient livrés à diverses expéditions punitives. Ils avaient braqué et frappé un homme qui leur avait acheté une voiture mais aussi dérobé 70 grammes d'ice et 1 million de francs à des trafiquants, là aussi en les mettant en joue avec une arme. Les magistrats du tribunal ont tranché. Hier, les 6 hommes ont été condamnés à des peines allant de 2 à 6 ans de prison ferme.
Covid-19, les tests rapides ne convainquent pas les autorités sanitaires.
Les nouveaux types de tests, plus rapides, plus confortables ou moins coûteux, font régulièrement la une de l'actualité. Alors que le Fénois prépare sa défense contre une réintroduction du virus, les autorités misent pourtant sur des tests basés sur des prélèvements au fond du nez ou de la gorge, tels qu'utilisés depuis le début de la crise. Près de 5000 dépistages PCR de ce type ont été ainsi menés depuis le mois de mars en Polynésie. Et ce, pour une raison très simple, leur fiabilité. Écoutez justement le docteur Henri-Pierre Mallet.
La veille sanitaire va utiliser uniquement les tests de détection de l'ARN du virus grâce à la technique PCR, ces fameux tests PCR, qui sont réalisés sur un prélèvement nasopharyngé. C'est là où on trouve le plus de virus et donc c'est ce test-là qui permet le meilleur diagnostic. Ce sont des tests qui sont fiables et validés et qui sont maintenant à peu près disponibles et donc on va pouvoir assurer leur approvisionnement pour les semaines et les mois à venir.
Quelques Polynésiens ont pourtant eu l'occasion de s'essayer à d'autres types de tests ces derniers jours. Le centre de biologie médicale et de la clinique. Cardella propose par exemple des tests sérologiques de détection du Covid-19. Ces tests n'ont aucun intérêt en matière de veille sanitaire, pointe le docteur.
Le fameux test salivaire dont on a parlé recherche également, lui, de l'ARN du virus. Donc c'est aussi une technique PCR, mais une technique PCR simplifiée, faite sur un prélèvement salivaire. Donc c'est plus simple, mais par contre, du coup, il perd beaucoup en sensibilité et donc il risque de ne pas détecter un certain nombre de cas. Donc c'est un test intéressant, mais ce n'est pas le test de référence, il n'est pas aussi aussi précis. Donc il peut éventuellement être utilisé ponctuellement en attente de la PCR classique dans par exemple certaines îles isolées, et donc c'est ce que nous envisageons.
Le pays a pourtant communiqué sur l'utilisation de nouveaux tests salivaires plus rapides, moins coûteux et surtout moins inconfortables pour les personnes dépistées. Il s'agit de la même technique PCR que le test classique, mais le prélèvement salivaire permet un peu plus de rapidité.
Dans l'ensemble, les tests rapides ne répondent pas aux besoins de diagnostic et de surveillance sanitaire. C'est-à-dire que ce sont des tests soit qui sont pas assez fiables, soit qui détectent la maladie trop tardivement. Le test sérologique, par exemple, ne détecte la maladie qu'après le passage du virus, quand les anticorps sont produits. C'est à partir du 14e jour, c'est-à-dire en gros quand il n'y a plus de signes. À titre individuel, les tests sérologiques n'ont d'intérêt par curiosité si on cherche à savoir si on a été infecté dans le temps, ce qui a priori n'est pas le cas ici pour la très grande majorité des gens.
Des propos recueillis par Charles Irénée.
Comment ramener du poisson plutôt que des mauvaises nouvelles à la maison?
Le pays s'apprête à lancer avec la Fédération Tahitienne des Sports Subaquatiques de Compétition une campagne de sensibilisation sur les risques de la chasse sous-marine. Il s'agit d'une vidéo. C'est que la fréquence des accidents inquiète. 6 Polynésiens, principalement des jeunes, sont morts depuis le début de l'année en pratiquant l'activité. Pour le ministre de la Mer, Tevaro Fritsch, il était naturel que le pays s'engage encore plus fortement cette année compte tenu du nombre important d'accidents.
On a eu malheureusement à déplorer encore des victimes d'accidents de chasse sous-marine cette année, 4 l'année dernière, 6 déjà cette année, et l'année n'est pas finie. Donc il y a une recrudescence. Ça nous a tous touchés, hein. Ce qui s'est passé, ce sont des drames familiaux avec des jeunes, beaucoup, mais aussi des moins jeunes, des pères de famille aussi, qui vont à la pêche pour nourrir la famille ou pour vendre le poisson. Et donc on a souhaité, au travers de ce film, grand public, rappeler les règles de base de sécurité. Et la première règle, c'est d'aller pêcher à deux.
Une hécatombe, se désole le président de la Fédération Tahitienne des Sports Subaquatiques, Romuald de Montagnon. On peut l'expliquer par l'augmentation tout simplement du nombre de pratiquants et aussi la pression économique qui force à ramener quelque chose à vendre ou à manger.
Il y a le plaisir et puis surtout le besoin. Quand ils vont pêcher, ils ramènent du poisson pour manger ou pour le vendre. Puis il y a de plus en plus de pêcheurs. Il suffit de renseigner auprès des vendeurs de matériel spécialisé, les fusils. Ils vont vous dire, c'est phénoménal ce qu'ils vendent. Où il y a des accidents, c'est pas les professionnels. Ce sont des gens qui vont pour le plaisir et en même temps pour avoir un complément de revenus ou de nourriture. Alors les campagnes de sensibilisation qu'on fait, bon, on leur apprend et là on leur pose des questions et on voit qu'ils ont beaucoup ont des lacunes, voyez, en termes de sécurité.
Romuald de Montagnon estime aussi que les règles doivent être respectées pour limiter les accidents, vérifier son matériel, s'hydrater et soigner son corps, mettre encore sa bouée de signalement et bien également rester calme et ne pas s'épuiser. Parmi les règles de base développées dans la campagne, la plus importante est sans doute celle de la sécurisation en binôme. Voilà, en tout cas, s'achève ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.